Le livre de l'Ecclésiaste est un de ces livres de sagesse qui, comme le Cantique des Cantiques, les Proverbes et les Psaumes, nous enseignent à vivre, nous enseignent comment vivre. On arrive à la deuxième moitié du chapitre 7. C'est le verset 15 par lequel nous commencerons. Et j'ai déjà fait remarquer que c'est un livre qui est souvent mal compris quand on le lit au premier degré. La Bible est un livre que vous pouvez lire tout seul, avec l'aide du Saint-Esprit qui va vous révéler les choses. Mais souvent, lorsqu'on n'a pas une grande connaissance de la parole, on peut faire de graves contresens. C'est pour ça qu'il est toujours bon que dans un petit groupe, il y ait quelqu'un qui soit un peu plus enseigné, qui ait un peu plus de compréhension d'ensemble de la parole. Sinon, on peut se retrouver à faire naître des sectes. Souvent, les sectes, c'est des personnes qui partent sur un verset et qui en font toute une doctrine sans avoir tout le conseil de la parole. Et dans le cas de l'Ecclésiaste, de ce livre écrit par, on pense que c'est le roi Salomon lui-même, l'Ecclésiaste, ça veut dire celui qui s'adresse à l'assemblée. Ecclésia, l'église, c'est la même origine, c'est l'assemblée, ceux qui sont appelés. Et il est, on pourrait dire, le prédicateur ou le prêcheur en mauvais français. Celui qui annonce la parole de Dieu. Et cet Ecclésiaste, il a une vision qui semble très pessimiste de la vie. C'est d'ailleurs assez intéressant de remarquer que quand on recherche des commentaires sur ce livre, ils sont peu nombreux. Lorsque l'on cherche des sermons ou des séries de sermons sur ce livre, ils vont des fois très très vite. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce que quand on lit ce texte au premier degré, on est frappé par l'aspect négatif, par les sentiments négatifs. On a l'impression que ce livre nous dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ce n'est pas quelque chose que les pasteurs aiment prêcher parce qu'ils veulent faire grandir leur congrégation. Et lorsqu'on annonce le livre de l'Ecclésiaste, s'il est mal interprété, mal compris, les gens vont tomber dans la déprime. Les gens vont être dépressifs et même peut-être suicidaires, ce qui n'est certainement pas la meilleure façon de faire grandir votre congrégation. Pourquoi cela? Parce qu'il distingue deux façons de vivre et il s'attache à parler d'une première façon de vivre qui est de vivre, une expression qui revient beaucoup dans les premiers chapitres, les six premiers chapitres, qui est de vivre sous le soleil. Alors aujourd'hui, on peut dire chouette, on est sous le soleil exactement, comme disait la chanson. Et c'est formidable, il fait beau sur la Côte d'Azur, on a de la chance d'habiter à Nice ou d'être de passage ici. Mais ce n'est pas du tout ce que Salomon veut dire, il veut dire vivre en regardant par terre. Sous le soleil, on regarde tout ce qui se passe ici-bas, sans égard pour Dieu, pour un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a des plans pour l'éternité. Et donc il fait un peu ce contraste entre la vie qui est vécue sans égard pour Dieu, ça ne veut pas dire que l'on ne croit pas à Dieu, mais il n'importe pas dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions. Il faut bien reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme ça, on va peut-être à l'église le dimanche, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant le travail, un époux, une épouse, des décisions importantes, on laisse Dieu de côté et on essaye de se fier à notre propre jugement. Et c'est vrai qu'il va nous dire qu'en fait, si on considère les choses, la vie sous le soleil, elle est répétitive, elle est un peu pareille pour tout le monde. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont en bonne santé, d'autres qui sont mal portants. Mais il nous dit en fin de compte, tout le monde finit par mourir. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, les mêmes exigences ou les mêmes conséquences de la vie ici-bas s'appliquent. Et on peut faire des tas d'efforts, s'efforcer de servir les autres, s'efforcer de travailler dur. Il y a des moments où, quand on le lit, il nous dit, mais à quoi bon ? Qu'on fasse tous ces efforts ou qu'on ne les fasse pas, on finit tous au même endroit, dans la tombe. Et donc, il a une vision très pessimiste quand on regarde le texte au premier degré. Mais en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il a quelque chose à nous proposer qui est une vie au-dessus du soleil. C'est-à-dire en regardant vers Dieu et en laissant Dieu diriger nos vies, en laissant Dieu avoir une véritable influence, pour ne pas dire un règne, dans nos propres vies. Il va développer cela de plus en plus à la fin du livre, mais dès le chapitre 3, il a dit par exemple que Dieu a mis le sentiment de l'éternité dans nos cœurs. Donc c'est vrai, si on regarde, on va tous finir au cimetière ou en cendres, peut-être dispersés dans la Méditerranée. Mais il y a quelque chose de au plus profond de nous qui nous fait dire, qui nous fait comprendre, qui nous fait savoir que la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que la vie matérielle ici-bas, qui s'achève par la mort physique. Il veut nous communiquer qu'il y a une autre vie, et cette vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Elle est formidable. C'est un peu la vie abondante dont parlait Jésus lorsqu'il disait « Je suis venu pour vous donner la vie, vous la donner en abondance ». Ça ne veut pas nécessairement dire que la vie va être facile, qu'on ne va pas être persécuté. On a des frères en ce moment, de par la terre, qui sont horriblement persécutés. Et pourtant, ils ont la vie en abondance. Ils ont la vie en abondance parce qu'ils connaissent Jésus. Dans leur souffrance, ils ont peut-être une plus grande intimité avec lui. Et de toute façon, il y a la promesse, l'assurance, la vérité, le fait qu'il va y avoir une vie pour l'éternité avec Dieu. Et ça permet d'endurer pas mal de choses. Et cette vie au-dessus du soleil, tournée vers Dieu, il va l'évoquer de plus en plus. Et après avoir rappelé tous les malheurs qui sont le lot de l'humanité, il va nous encourager. Alors c'est vrai que si on lit comme ça d'un seul coup, on peut se dire, ben c'est pas très encourageant. Je ne vais pas enseigner ça à l'église, sinon les gens vont cesser de venir. Il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui, j'espère que c'est peut-être que ce n'est pas pour cette raison. Mais il va nous dire que le mal est partout présent, mais qu'il y a un espoir. Au début du chapitre 7, il a annoncé quelques paradoxes. Les paradoxes, c'est souvent un procédé pour capter l'attention des gens. Il dit par exemple, il vaut mieux le chagrin que le rire. Si on vous donnait le choix normalement entre avoir envie de rire et pleurer de chagrin, je sais que pour moi, le choix serait facile. Je préférerais rire que de pleurer. Il dit que il vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Il dit que le Il vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de joie. Et tout ça, ce n'est pas pour dire qu'on doit être malheureux, on doit être toujours en train de pleurer. Mais c'est pour nous dire que ces moments de deuil, ces moments de chagrin, ils ont le mérite de nous faire penser à la réalité des choses. Nous vivons dans un monde d'illusions. Notre existence physique même, le matériel, il est difficile à saisir. La science moderne va dans ce sens-là en nous faisant comprendre qu'en fait, ce qu'on croit être du solide, du matériel indestructible ou costaud, c'est en fait que du vide qui tourne très vite sur lui-même. On a dit que si on réduisait le grand bâtiment de New York, l'Empire State Building, si on éliminait tout le vide électrons et noyaux, la taille de ce grand bâtiment, de ce grand immeuble, ce gratte-ciel, serait réduite à la taille d'un noyau de cerise qui pèserait 30 millions, 30 milliards de tonnes, je ne sais plus. On aurait du mal à balancer le noyau de cerise. Mais souvent, ce qu'on croit comme être des réalités, en fait, c'est qu'une apparence de nos sens. Et il y a des réalités qui sont éternelles et qui nous sont révélées partiellement par la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de connaître, de comprendre, d'être familier, de cultiver la connaissance de la parole de Dieu. Il aimerait, le grand roi Salomon, comprendre la réalité des choses, la vérité des choses qui nous entourent, la vérité dans nos vies. Et Dieu l'avait béni au début de son règne, avec une grande sagesse. Salomon avait eu un songe, un rêve, dans lequel Dieu lui demandait ce qu'il voudrait qu'il lui donne, ce qu'il lui donna, pour les professeurs de français. Mais il avait simplement demandé la sagesse. Et cela avait plu à Dieu, qui lui avait dit « Puisque tu as demandé la sagesse, je vais te la donner comme je l'ai donnée à aucun autre être humain. Mais en plus, je te donnerai la richesse, la beauté, tout ce qu'on peut imaginer en plus. » Et donc, Salomon était doté d'une grande sagesse humaine. Et on sait que il ne s'agissait pas vraiment d'une sagesse complète et spirituelle, profonde, parce que à la fin de sa vie, il s'est laissé détourner de Dieu, notamment par 1000 femmes, 700 épouses et 300 concubines. Alors, ces femmes étaient souvent des femmes païennes, la majorité absolue pratiquement étaient des femmes païennes. On dit que c'était souvent le signe d'une alliance politique avec des royaumes voisins. Toujours est-il qu'il a introduit des pratiques idolâtres dans son royaume, et on pense qu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste à la fin de sa vie, et que là il a réalisé son erreur, et on pense qu'il est revenu à Dieu en sagesse. Il y a une expression qui revient souvent dans son texte, c'est « j'ai vu telle chose ou telle chose ». Il a su ce que c'était que d'avoir des moyens financiers, d'avoir du succès auprès des femmes, ce que c'était que d'avoir tout ce qu'il pouvait désirer. Rien ne lui était refusé, et pourtant, Il considère que son existence sous le soleil, encore une fois, c'est une existence vaine. C'est un mot qui revient souvent, c'est futile, c'est vain, c'est comme de la vapeur. C'est là un moment et quelques instants plus tard, ça a disparu. Il a ce sentiment à la fin de sa vie que la vie passe très vite et que si elle est vécue seulement sous le soleil, pour notre propre plaisir, nos propres intérêts, sans égard pour Dieu, c'est d'un énorme gâchis. On est déjà à la fin du mois d'août. Plus on prend de l'âge et plus le temps s'accélère, il semble. Et à la fin, on va tellement vite qu'on décolle, quoi. On s'en va. C'est difficile pour des enfants, des jeunes gens, de penser à ça, mais même, on n'a aucune garantie de la durée de la vie. On peut être très jeune, en bonne santé, et se trouver dans un accident et quitter ce monde, entre guillemets. Il a constaté des choses injustes. C'est intéressant parce que même les gens qui ne croient pas en Dieu, ceux qui même refusent l'existence de Dieu, qui vont combattre l'idée de son existence, tous ont le sentiment de la justice et de l'injustice. Il y a des choses qui sont justes et d'autres qui ne sont pas justes. Les enfants, on n'a pas besoin de leur donner des cours d'instruction religieuse pour qu'ils crient « c'est pas juste ». Lui, il a eu deux fois plus que moi et en plus on lui en redonne, moi j'en ai pas eu. Et c'est aussi un sentiment qui frappe Salomon. On va lire ensemble ce passage de Ecclésiaste 7, 15 à 29. J'ai vu tout cela pendant ma vaine existence. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche pas. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, j'aurai de la sagesse, mais elle reste loin de moi. Ce qui existe est loin, profond, profond. Qui peut l'atteindre? J'en suis venu, de tout mon cœur à connaître, à explorer et à chercher la sagesse et la raison, à connaître aussi la méchanceté, l'insanité, la folie et la démence. Or, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur deviendra sa capture. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste en examinant les choses une à une pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités. Arrêtons-nous là. Il part dans ce passage de justice et de sagesse. Et comme je l'ai fait remarquer, il y a des choses qui le choquent et qui nous choquent dans la vie. lorsqu'on voit un jeune missionnaire qui est tué dans un accident d'auto en Afrique à l'âge de 25 ans et qui laisse derrière lui deux enfants et sa femme. Et puis on voit tel dictateur pourri, entre guillemets, qui fête son 70e anniversaire avec des manifestations, des défilés d'armes dans la rue. On se dit, il y a quelque chose d'injuste. Ce jeune missionnaire, c'est quelqu'un que j'ai connu. Et j'avais vraiment ce sentiment, comment tu peux permettre ça, Dieu ? Et Salomon avait vu cela aussi pendant son existence sous le soleil, sa vie de futilité. Il y avait quelqu'un qui est juste devant Dieu et qui ne vit pas longtemps. Et puis un méchant, quelqu'un qui est loin de Dieu, qui prolonge sa vie tout en faisant du mal autour de lui. C'est quelque chose qui pose question. La réponse, on sait, on la connaît. Là, il ne la donne pas tout de suite, mais c'est qu'il y a la vie ici-bas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une vie d'éternité qui nous attend. Alors certains diront, c'est la religion, c'est l'opium du peuple, faire croire que les souffrances ici-bas seront récompensées plus tard ou qu'il y aura une justice qui fera que le bon, celui qui a cherché à vivre en plaisant à Dieu, sera récompensé. Mais c'est pourtant ce que la parole nous annonce. Dieu a mis le sentiment d'éternité dans nos cœurs. Nous savons qu'il y a, lorsque nous voyons un mort, peut-être vous avez déjà assisté à un enterrement, avant qu'on ne referme le cercueil, on peut voir la personne, généralement une personne chère qui est dans son cercueil, les yeux fermés, le corps froid. Souvent on fait, par affection, on va déposer un baiser sur le front de la personne et on est surpris, si ça vous est déjà arrivé, par le fait qu'il n'y a plus de chaleur. Alors c'est vrai que le corps a été conservé au frais pendant quelques jours, mais on est frappé de se dire, si c'est ça la vie, à quoi bon ? Mais il y a une éternité avec Dieu qui attend le juste, celui qui a été justifié par sa foi en Jésus-Christ. Et puis, il ajoute, ne deviens pas juste, Alexée, ne te montre pas trop sage. Pourquoi te ruinerais-tu ? Ne sois pas méchant, Alexée, ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? On a l'impression qu'il nous dit, faut jamais être dans les extrêmes. N'essaye pas d'être trop juste, d'être plein de sagesse, encore une fois, cette justice et cette sagesse que Salomon recherche, parce que ça va te ruiner la vie, ça ne va pas être drôle. Et puis il dit d'un autre côté, ne sois pas aussi un mécréant, un méchant, quelqu'un qui refuse Dieu à l'excès. Ne deviens pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Là, il pense que le méchant, généralement, finit avant le juste. Et c'est vrai qu'il y a des cas dont il vient de parler où le méchant vit beaucoup plus longtemps que le juste. Mais il y a une rétribution qui va avec le style de vie. Les chrétiens, globalement, ont une durée de vie plus longue que les non-chrétiens. C'est un fait avéré, statistiquement prouvé. Si vous ne buvez pas d'alcool, ou ne faites pas des excès d'alcool, si vous ne fumez pas à l'excès, c'est pas un péché, mais c'est pas bon pour la santé. Toutes ces choses-là, de vivre de façon risquer au niveau sexuel, d'avoir des tas de partenaires sexuels. Toutes ces choses-là font que les non-croyants n'ont pas une vie aussi longue. Mais je crois que la principale des causes, c'est que les croyants ont la paix dans leur cœur. Les véritables croyants sont en paix avec la vie, avec les difficultés qui les entourent. Et ça, ça fait du bien au corps. La plupart des maladies, je suis sûr que vous êtes déjà allé chez le docteur, vous aviez des problèmes de manque de sommeil, d'apparition de boutons sur la peau, et on vous dit « Ah, ça c'est le stress !» Le stress, c'est la grande explication de la médecine quand ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Mais je crois que c'est aussi véritablement une cause réelle des maladies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu attendre la moitié du XXe siècle pour qu'on découvre en médecine les maladies psychosomatiques. Pour dire qu'il y avait une relation entre ce qu'on pense, notre psyché, nos émotions, notre intelligence et notre corps physique. La Bible en parle depuis plus de 2000 ans. Le psalmiste disait que le rire, ça fait du bien aux os, que vivre en obéissant et en plaisant à Dieu, ça nous fait du bien au corps. Et on le sait tous, lorsqu'on est en paix avec Dieu, notre corps, généralement, pas toujours, a tendance à être en paix avec lui-même et avec nous. On dort mieux, on a la conscience tranquille, on a une vie beaucoup plus paisible, même si on a des difficultés, on les relativise, on sait que c'est quelque chose qui appartient à notre lot. Ici-bas, sur la terre, nous vivons dans un monde entaché par le péché. Les souffrances touchent les bons comme les mauvais. Les bonnes choses de Dieu bénissent les méchants comme les bons aussi, c'est affirmé dans la parole. Et donc, en fait, je crois qu'il ne faut pas penser qu'il ne faut... Lorsqu'il dit cela, il se fait l'avocat un peu du diable, des gens qui disent « Oh, il faut pas, c'est bien d'aller à l'église, mais il ne faut pas être fanatique. Hein. » Il ne faut pas... En fait, ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons passionnés pour lui, que nous soyons quelque part des fanatiques pour lui. Alors, fanatique, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on se comporte dans la vie publique, dans la vie privée, de façon bizarre, qui inquiète les gens qui nous voient vivre. Mais ça veut dire qu'on est prêt à tout sacrifier, nos ambitions, notre confort, l'assurance de nos ressources, si c'est pour glorifier Dieu, si c'est pour vivre à fond pour lui. Il est bon que tu retiennes, verset 18, que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. La crainte de Dieu, nous dit le Proverbe 9, 10, c'est le début de la sagesse. La sagesse, c'est, disait un auteur, c'est cette capacité donnée par Dieu de voir la vie avec une objectivité rare et de mener sa vie avec une stabilité rare. Vous avez sans doute essayé de conseiller des amis, des parents qui sont dans une situation. Pour vous, l'issue de cette situation, la voie à suivre est assez évidente, mais eux, ils sont pris dans la passion du moment, dans l'aveuglement des émotions, et ils ne sont pas objectifs. La sagesse, c'est cette capacité de voir la vie avec objectivité. Et c'est rare. Peu de gens arrivent à s'abstraire de leurs émotions, des circonstances ou des conséquences de ce qu'ils vivent pour voir les choses avec objectivité. Et le deuxième point, c'est que c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir mener notre vie avec stabilité. Et ça aussi, c'est rare. Mener sa vie avec une stabilité rare. De prendre des décisions sans paniquer, de prendre des décisions sans s'affoler ou sans s'enthousiasmer de façon aveugle. Ça fait partie de la sagesse. Et il dit que celui qui craint Dieu, donc celui qui croit en Dieu et qui a du respect pour lui, il va trouver une issue en toute situation. Donc, quelle que soit la situation à laquelle la personne est confrontée, elle va pouvoir trouver la voie de sortie. C'est tellement clé d'avoir cette assurance que l'on peut s'en remettre à Dieu et qui nous donne un moyen de nous en sortir. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 10, 13, qui parle des tentations et qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » On rencontre des difficultés, ça peut être des tentations qui auraient tendance à nous faire tomber dans le péché. Mais si nous craignons Dieu, si nous tournons vers lui, il va nous donner un moyen de nous en sortir, une issue de secours. Il continue en disant « La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. » Si on a cette sagesse, cette capacité à voir les choses objectivement et à agir avec stabilité, calmement, alors on est plus fort que si on rassemblait toutes les autorités d'une ville, toute la puissance militaire associée à cette ville, toute la puissance judiciaire, légale, toutes les institutions, on est plus fort que ça. On est gouverné par Dieu et on comprend les choses autant que Dieu veut nous les laisser comprendre. Et il ajoute, cette sagesse parfaite, il y aspirait. Dieu lui avait donné une sagesse pratique que personne n'avait jamais eu auparavant, mais ce n'était pas une sagesse spirituelle, puisqu'on voit qu'il a pu se laisser distraire par des choses dans sa vie, notamment l'idolâtrie amenée par ses femmes, le fait de se retrouver avec 700 femmes et 300 concubines nous permet déjà de mettre en doute sa profonde sagesse. Et il a cette affirmation, « Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. » C'est le même verset que Paul va reprendre dans Romains 3. Il dit... Verset 9, quoi donc sommes-nous supérieurs, parlant des gens qui connaissent Dieu? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, tout le monde, sont sous l'empire du péché, la domination du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et il continue, mais il affirme qu'il n'y a pas de personne qui ne pêche pas. Il y a des fois, on tombe sur des personnes qui nous disent, mais moi je suis un bon citoyen, je n'ai jamais tué personne, je ne mets jamais en colère. Et s'ils impliquent par là qu'ils sont parfaits, ils ont déjà tombé dans le péché d'orgueil. Mais la parole est claire et absolument affirmative. Il n'y a personne qui fasse le bien, qui ne pêche pas. Ça, c'est une des grandes vérités. On pensait des fois que c'est seulement dans Romains que c'est annoncé, mais en fait, Paul, dans Romains, fait allusion à ce verset de l'Ecclésiaste du roi Salomon. Est-ce que vous êtes tous convaincus d'être des pécheurs? S'il y en a, on va poser la question à l'envers. S'il y en a qui pensent ne plus être pécheurs? Alléluia, vous avez compris cette vérité. Dieu est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il nous lave de nos iniquités. Nous pouvons venir et demander pardon. Certains pensent qu'une fois qu'on a été accepté par Jésus-Christ, qu'on a reçu sa justice, on vit comme en marchant sur l'eau sans jamais pécher. Mais si on est un peu réaliste, si on a un peu de sagesse et qu'on voit les choses avec objectivité, généralement on n'a pas besoin de nous convaincre bien longtemps qu'on est, il n'y a pas un seul homme juste, qu'on n'est pas cet homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Nancy, ma femme, était souvent irritée par ma mère, qui ne se rappelant pas de mes 400 coups, lui affirmait que j'étais un enfant parfait. J'étais peut-être un gentil petit garçon, mais je faisais plein de bêtises et j'avais un cœur plein de péchés. Ça, c'est l'aveuglement maternel qui fait qu'une maman aime toujours ses enfants. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. Ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut nous dire par là que la sagesse, elle nous aide à supporter les critiques des autres, en nous rappelant que nous aussi, nous critiquons les autres. Et si on est honnête, le mal qui est dit de nous ne représente bien souvent que la partie émergée de l'iceberg. Je crois que c'est Spurgeon qui répondait à une dame qui lui disait « Vous êtes un homme pécheur. » Il a dit « Oh, seulement si vous saviez dans quelle mesure je suis pécheur. » Et on a souvent tendance à être dévasté par des critiques, surtout si elles sont injustes, mais même si elles sont justes, on les trouve toujours un peu injustes. Ne prends pas à cœur toutes les paroles qu'on dit sur vous, sur moi. Car ton cœur doit reconnaître que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. C'est important de ne pas prendre les critiques de façon trop personnelle. il est bon de chercher la vérité dans les critiques, souvent une part de vérité. Mais si on veut vivre pour le Seigneur, il faut apprendre à avoir la peau un peu dure. Et ça nous permet aussi en retour, de ne pas dire, de ne pas faire du mal par nos propos pour les autres. De se réfréner, de ne pas succomber à la tentation d'abonder dans le sens de quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Quand vous êtes dans un groupe, dans une église, dans une assemblée, au travail, en famille, souvent les gens vont s'attaquer à une personne et tout le monde va venir faire la curée. Pas le curé, mais la curée, c'est-à-dire manger et être sarcastique. Le mot sarcasme, ça veut dire de manger la chair. C'est comme si on dévore quelqu'un. Et c'est aussi le grand prédicateur Spurgeon qui conseillait aux jeunes gens qui voulaient devenir pasteurs, il leur disait qu'il fallait apprendre à avoir la peau résistante aux attaques et en même temps ne pas accabler les gens par des critiques. Il y a des fois des gens qui sont très sensibles à ce que l'on dit sur eux et qui en même temps se montrent très insensibles sur ce qu'ils disent des autres. Ça, c'est la pire combinaison. Mais c'est souvent, ça va de pair. Si on a tendance à être très sensible, on va avoir tendance à dire du mal des autres. Et c'est pour ça que ne prenez pas à cœur toutes les paroles qu'on peut dire sur vous. Continue en disant, j'ai testé tout cela par la sagesse. Je m'étais dit ou j'ai dit, j'aurai de la sagesse, mais elle reste loin de moi. Donc il ne parle pas de la sagesse pratique, mais de la sagesse spirituelle. Et il se rend compte que il est loin de comprendre toutes les choses qui l'entourent, de comprendre le pourquoi du comment dans la vie. Ce qui existe, ce qui est loin, profond, profond. Qui peut l'atteindre? C'est l'idée que l'homme ne peut pas prétendre comprendre la réalité profonde de toutes les choses. Les hommes sont limités. Ça me fait penser à Paul qui dit dans 2 Corinthiens 18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Encore une fois, il y a l'apparence des choses qui n'est que provisoire. Et puis, les choses invisibles qui sont éternelles. Le prophète Ésaïe nous disait que les voix du Seigneur sont bien au-dessus de nos voix. Ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées. On ne peut pas espérer comprendre la pensée de Dieu complètement, sinon ça voudrait dire qu'on est au moins égal à lui, ou même pire, supérieur à lui pour comprendre la façon dont il pense. Il nous révèle des choses qui nous appartiennent, les choses qui sont révélées nous appartiennent, celles qui ne sont pas encore révélées appartiennent à Dieu. Deutéronome 38, je crois, le dernier verset, un des derniers versets de Deutéronome. Ce qui existe est loin, profond, profond, qui peut l'atteindre? J'en suis venu de tout mon cœur à connaître, à explorer et à chercher la sagesse et la raison, à connaître aussi la méchanceté, l'insanité, la folie et la démence. Donc il s'est appliqué à chercher, à comprendre la façon dont le monde tourne, la façon dont les gens réagissent. Mais pour autant qu'il l'a voulu de tout son cœur, il n'a pas réussi à comprendre les choses dans leur réalité. La sagesse parfaite lui a fait défaut. La sagesse d'en haut. Puis il continue avec un passage, on pourrait penser que c'est un passage machiste. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur deviendra sa capture. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésias, en examinant les choses, une à une pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Alors là, je crois qu'il ne faut pas se précipiter de dire que toutes les femmes sont manquent de sagesse, qu'elles sont toutes des pièges terribles, que leurs mains sont des liens. Lorsqu'il parle qu'il a trouvé un homme entre mille, je crois qu'il fait allusion à sa propre expérience, à lui-même. Et les femmes dont il parle, les mille femmes dont il parle, c'est 700 plus 300, c'est son expérience personnelle. Il n'a pas connu des femmes croyantes. Il a trouvé des femmes, pour certaines de ses compagnes, ses concubines, c'était sans doute des femmes de mauvaise vie qui essayaient de profiter de lui et il se trouvait comme prise au piège. Mais en même temps, il a parlé de très belles façons de la femme qu'il n'a pas connue dans le proverbe 31. Et d'autres proverbes disent que celui qui trouve une femme est un homme béni, proverbe et psaume. Il nous a... Proverbe 31, je vais y arriver. Alors ce sont les paroles du roi Lémuel, on pense que c'est peut-être le roi Salomon lui-même, mais peu importe, les proverbes nous parlent de cette femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas. C'est à partir du verset 10 du dernier proverbe 31. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ça ne veut pas dire qu'elle est large comme un gros navire. Non, elle amène des ressources à la famille. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Souvent, lorsqu'on lit ces passages, il y a des femmes de nos jours qui disent « C'est facile d'être la femme de valeur de Proverbe 31, donne-moi quelques servantes et je te montrerai que je suis une bonne épouse. » Mais bref, tout ce passage est à la gloire de la femme, pour dire que foncièrement, Salomon n'était pas machiste et que ce passage, il ne faut pas le prendre comme une généralité sur les femmes et les hommes, mais sur ce que lui a connu dans sa vie. Et puis, seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu, a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités. Ce mot traduit par subtilité est seulement utilisé deux fois dans la Bible. C'est le mot en hébreu qui se dit chishavon, qui, l'autre passage, c'est utilisé dans 2 Chroniques 26-15, et là, ça désigne une machine de guerre, comme une catapulte ou quelque chose de perfectionné. Aujourd'hui, on parlerait d'une kalachnikov ou quelque chose de sophistiqué qui permet de vaincre l'ennemi. Et ce mot qui est traduit dans 2 Chroniques 16 comme une invention, une machine de guerre, ça vient du mot qui veut dire penser ou inventer. Donc c'est traduit par subtilité. On pourrait traduire ça par invention. Des inventions, ça peut être au sens psychologique, des stratagèmes, des subterfuges, des façons de nier l'existence de Dieu, d'éloigner les hommes de Dieu. Dieu, à l'origine, Salomon déclare qu'il a fait les hommes droits. Ça ne veut pas dire chaque homme est né droit. Nous savons que nous qui sommes des descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité d'eux le péché originel, que nous sommes à la base des pécheurs qui avons besoin d'être sauvés. Eux n'avaient été créés ni pécheurs ni neutres, mais droits. C'est un terme qui veut dire qu'ils étaient prêts, ils avaient un cœur disposé à la fidélité et à l'obéissance. Et donc ce verset, il nous dit que Dieu a créé les hommes à l'origine pour qu'ils lui obéissent, qu'ils aient une vie épanouie dans une relation intime et complète et profonde avec Dieu, mais ils ont cherché bien des subtilités. Il y a d'autres traductions, les hommes ont tout compliqué, ou ils ont cherché une foule de complications pour ne pas avoir à obéir Dieu, pour s'éloigner de Dieu, pour ne pas faire sa volonté. Ça, c'est une traduction et une pensée, je crois, qui est tout à fait valable. Mais si on revient au terme d'invention, à ce moment-là, on peut trouver une application pour aujourd'hui, pour vous, pour moi, de façon très pratique, très concrète. L'idée, c'est que l'homme a été créé pour avoir une relation avec Dieu, mais l'homme a cherché et a trouvé, a inventé beaucoup de choses. Alors, il y a des choses, des raisonnements philosophiques, des raisonnements non matériels, mais l'homme a aussi créé beaucoup de choses matérielles qui nous éloignent de Dieu. J'avais préparé, je ne sais plus si je l'ai encore, où est-ce qu'il est passé. Je crois que je ne l'ai plus. Est-ce qu'il est tombé? Je vais peut-être prendre ça. Merci. Je l'ai en anglais et en français. Je l'avais donné à James. Heureusement, j'ai trouvé le français. Est-ce que vous êtes chrétien, mais trop occupé? Chrétien, mais trop pris. Il y a une petite histoire qui est racontée dans ce traité, avec une jolie montre. Moi, j'ai jamais le temps. Je vous demande pardon, bien des fois, les gens viennent me parler, mais je suis occupé à faire quelque chose, je suis trop pris. Et cette histoire, qui est un peu dans le style du grand écrivain C.S. Lewis début du XXe siècle, nous dit « Satan avait réuni une conférence mondiale. S'adressant à ses démons, il leur déclara dans son discours d'ouverture « Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de rester attachés à des valeurs traditionnelles. » Mais il est une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons les empêcher de faire l'expérience d'une relation intime et durable avec Christ. S'ils arrivent à établir ce rapport avec Jésus, notre pouvoir sur eux est rompu. Laissez-les donc aller à l'église, laissez-les à leur mode de vie conservateur, mais dérobez-leur temps, pour qu'ils ne puissent pas arriver à cette expérience avec Jésus-Christ. Voilà, chers démons, ce que je veux vous voir faire. Empêchez-les d'entrer en communion étroite avec leur Sauveur. et de maintenir cette connexion vitale tout au long de la journée. Et bien sûr, les démons répondirent en cœur, « Mais Satan, ô grand maître, comment faire ?» Et la réponse de Satan, c'est « Occupez-les aux choses non essentielles de la vie et inventez, c'est la même idée, une multitude de ruses pour accaparer leurs pensées, répondit-il. » La différence avec ce verset 7-29, c'est que c'est l'homme lui-même qui invente ses ruses, probablement sous l'influence de l'ennemi. Poussez-les à dépenser, sans retenue, pour ensuite avoir à emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler pendant de longues heures et les hommes de faire des semaines de 6 ou 7 jours, des journées de 10 à 12 heures, pour qu'ils puissent se payer la belle vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. À mesure que leurs familles se fragmenteront, elles ne constitueront plus un refuge aux pressions de la vie professionnelle. Surstimulez leur intellect pour qu'ils ne puissent plus entendre la petite voix de Dieu. Poussez-les à écouter la radio, des cassettes dès qu'ils montent en voiture, à voir la télé, la vidéo, des CD et leur PC allumés en permanence à la maison. Et veillez à ce que chaque magasin, chaque restaurant dans le monde joue en permanence de la musique non chrétienne contrariante. Cela leur bourrera le crâne et rompra leur union avec Christ. Empilez magazines et journaux sur leur table basse. Assaillez leur esprit d'informations 24 heures sur 24. Sur la route, envahissez leur champ de vision d'affiches géantes. Inondez leur boîte aux lettres de courriers sans valeur, de concours, de catalogues, de toutes sortes de lettres d'information, de promotions, offrant des produits gratuits, des services et de faux espoirs. Même dans leurs loisirs, laissez-les être excessifs, qu'ils en reviennent épuisés, agités et mal disposés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller se ressourcer dans la nature en méditant sur les merveilles de la création de Dieu. Envoyez-les plutôt s'amuser dans les parcs d'attractions, assister à des rencontres de sport, à des concerts, à des films, au cinéma. Et quand ils se réunissent pour des temps spirituels et fraternels, veillez à ce qu'ils n'échangent que des banalités et des ragots pour qu'ils repartent avec la conscience dérangée et des sentiments agités. Laissez-les se consacrer à gagner des âmes, mais remplissez leur vie avec tant de bonnes causes qu'ils n'auront pas le temps de puiser leur force en Christ. Bientôt, ils travailleront de leur propre force au détriment de leur santé, de leur famille, toujours pour la bonne cause. Ce fut une bien belle conférence et les démons très motivés s'en retournèrent chacun à leur poste pour entraîner partout les chrétiens dans une frénésie d'activité. Le diable est-il parvenu à ses fins? Êtes-vous toujours trop pris? À vous de juger. Et on peut mémoriser ce mot « pris » sous forme d'acrostiche, chaque voyelle, chaque lettre signifiant quelque chose. P, c'est prisonnier. R, ce sont les ruses. I, c'est inventé. Et S, Satan. Nous pouvons, lorsque nous sommes trop pris, c'est que nous sommes peut-être prisonniers des ruses inventées par Satan. Si nous sommes trop pris pour servir Dieu, pour penser à lui, pour l'honorer, pour le glorifier, alors nous sommes simplement trop pris. Ce qui me fait froid dans le dos, c'est que ce petit traité avait été conçu il y a une vingtaine d'années. C'était avant BFM TV, 24 heures sur 24, BFM Radio. C'était avant les réseaux sociaux. C'était avant Facebook, 1 milliard d'utilisateurs hier pour la première fois dans le monde. Le même jour, 1 milliard de personnes. Et je faisais partie, je dois l'admettre, de ce milliard de personnes qui ont regardé qui avait dit quoi, quand, comment. Et je crois que nous avons inventé des pièges et nous devons vraiment prier pour réclamer, retrouver une véritable intimité avec Jésus. Alors c'est vrai que c'est difficile maintenant de vivre sans moyen de communication. Mais en fait, pendant près d'un mois, j'ai eu très peu de nouvelles. Aujourd'hui, quand je reste un quart d'heure sans voir ce qu'il y a sur les nouvelles, j'ai l'impression que je ne suis plus en contact avec le monde. Quelles sont les nouvelles en ce moment? Il y a une université d'été des socialistes à La Rochelle, je crois. Au bidou. Il y a des menaces terroristes, ou Abdidou, on le savait déjà. Et en fait, on est là, on vit dans un rythme effréné. Et vraiment, l'antidote, c'est de passer du temps chaque jour avec Dieu, de lire la parole de Dieu. Des instruments qui peuvent être merveilleux, ils présentent le danger de vous donner un accès encore plus rapide à tout ce monde d'informations, de nouvelles peu importantes. Savoir que votre meilleur ami est en train de manger une pizza dans un restaurant à Athènes, c'est pas ça qui va vous changer la vie. Savoir qu'un autre vient de courir un 4,7 milles kilomètres à la vitesse de temps de mètres à la seconde. Et si je me permets de vous dire ça, c'est parce que je me parle à moi-même et je me dis, Dieu nous a fait droit et nous a fait créer pour avoir une relation avec lui, et bien souvent, on est loin de cette relation parce qu'on se laisse prendre au piège de nos inventions, souvent formidables, et puis aussi de toutes les excuses qu'on peut se donner pour ne pas suivre Jésus-Christ. Ce qui est même un peu inquiétant, c'est que ce petit traité qui reflétait le monde chrétien de l'époque il y a 20 ans disait que on ne pouvait pas nous empêcher de rester attachés à des valeurs traditionnelles, ce qu'on appellerait des valeurs judéo-chrétiennes. Mais malheureusement, il faut reconnaître que même dans l'Église, il y a des tas de valeurs qui sont remises en question, des choses qui sont clairement déclarées dans la Bible, qui sont remises en cause. Et tout ça pour dire que la sagesse, c'est de craindre l'Éternel. La sagesse, ça mène à une vie stable, à une vision objective du monde. La sagesse mène à la force. On a vu qu'on était plus fort que 10 gouverneurs. Elle nous aide à supporter les critiques, parce que nous aussi nous critiquons. Elle nous fait réaliser aussi qu'on ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a des fois où on a envie d'être en colère avec Dieu, mais pourquoi tu permets ça, ou pourquoi est-ce que je n'ai pas telle chose dans ma vie? Un travail, un époux, la stabilité. Accepter qu'on ne peut pas comprendre instantanément tout ce que Dieu fait. Et souvent il faut le recul du temps pour comprendre que Dieu était à l'œuvre. Et puis, elle nous donne la force de vivre avec le péché de l'humanité sans nous déprimer outre mesure. On ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais si on lui demande la sagesse, il peut nous l'accorder pour nous permettre de vivre en faisant du bien aux autres et en le glorifiant. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole lorsqu'elle nous interpelle. Et Seigneur, je te demande ton aide pour être moins distrait par toutes ces distractions, ces divertissements dont parlait Pascal, ces choses qui nous évitent de penser aux choses sérieuses, à la vie, à la mort, à la vie après la mort, à un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est mort pour nos péchés. Seigneur, donne-nous tes priorités, Seigneur. Aide-nous à prendre du temps, même à jeûner de ces réseaux sociaux, de ces nouvelles en boucle, 24 heures sur 24. Seigneur, tu as permis à ces outils de voir le jour. Ils peuvent être utilisés pour le bien. Ils peuvent servir à répandre ta parole, à ta vérité, ton amour. Mais aussi, Seigneur, on voit combien ils peuvent nous accaparer, nous voler notre temps, Seigneur. Nous avons tous le même nombre de secondes par jour. Seigneur, tu veux que nous pensions à toi. Tu veux que nous vivions au-dessus du soleil et pas seulement en dessous, Seigneur. Nous en remettons à toi, Seigneur, pour que tu nous donnes la force, la sagesse qui nous permette de vivre comme tu le désires. Prions ces choses dans le nom précieux et puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.